Bonjour Renaud Dourge en votre compagnie. J'ai le grand plaisir d'être en compagnie d'Alexandre Murat. Alexandre Murat, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que je vous reçois. Je vous avais reçu pour votre précédent ouvrage.
Absolument.
Paru chez le même éditeur, c'est Le Fleuve Noir.
Oui.
Et avec les mêmes personnages, mais nous allons en parler bien évidemment. Alors on peut faire un petit tour de votre propre carrière si vous le voulez bien. Alors vous avez fait HEC.
Oui.
Et vous avez fondé une société de joaillerie en ligne, ce qui est assez original, parce que lorsqu'on pense joaillerie, on pense aller dans cette place Vendôme ou autre, mais vous, c'était en ligne.
Oui, c'était en 2005, la première joaillerie en ligne spécialisée dans le diamant à l'époque, qui s'appelait Adamans, mais qui a fermé depuis. Mais ça a été mon premier contact avec l'univers de la joaillerie et du diamant.
Bien sûr. Alors rappelons, je pense peut-être que ça vous agace, peut-être qu'on le répète, mais que vous êtes descendant de Joachim Murat, et là vous êtes boulevard Murat.
Ah, ouais, voilà.
On ne pouvait pas faire mieux.
Exactement.
Mais vous êtes de famille d'empire par votre père, mais par famille, de côté de votre mère, vous êtes de famille de l'ancienne.
De l'ancien régime. Ouais, absolument, parce que ma mère était la fille du duc de Luynes. Et donc, Luynes et donc Colbert aussi, qui était lié à tout ça. Donc, c'était, voilà, une.
Le premier Luynes célèbre, c'était sous Louis XIII, si mes souvenirs sont exacts.
Exactement, le connétable de Luynes, qui était absolument le conseiller de Louis XIII.
Et votre mère a elle-même écrit.
Et ma mère était historienne. Elle a écrit des livres chez Fayard et Perrin, les grosses biographies qui sont publiées là-bas, absolument.
Bien, alors, et j'ai oublié, c'est que dans votre enfance, vous avez rencontré quelqu'un de très célèbre, c'est André Malraux.
Alors, je l'ai rencontré, j'étais tout petit, trop petit pour m'en souvenir, malheureusement, oui. mais mes parents, effectivement, connaissaient très bien André Malraux, qui, paraît-il, venait déjeuner à la maison, et ma mère me disait, ah, mais oui, mais il te prenait sur ses genoux. Et alors ça, c'était ma grande frustration de me dire que je n'avais pas pu parler avec André Malraux.
Bah, vous savez, ici, notre ami Alain Focard reçoit régulièrement Alain Malraux, qui est son fils, et très souvent, il passe dans ses émissions.
Ah bah, écoutez, très bien.
Nous allons donc retrouver la prophétie du diamant. Le diamant, vous avez travaillé dans le diamant, alors c'est peut-être pour cela aussi que vous avez eu l'idée de faire cela. Et nous allons retrouver deux personnages récurrents qui étaient déjà dans les deux précédents volumes. Oui. Vous pouvez peut-être rappeler, il y a eu Aranea, le 9e livre.
Oui, ça c'était le dernier.
Et le
premier, c'est Aranea, la légende de l'empereur.
Donc avec ces deux personnages récurrents, que vous allez nous représenter, si vous le voulez bien.
Alors, Alex et Marie. Donc, Alex est un professeur d'histoire des civilisations. Brillant personnage, très, très érudit, très, très astucieux. Et Marie, c'est la femme d'action, c'est un peu l'inverse. Et elle est patronne d'une agence de sécurité. Et ils forment un duo de choc. Voilà.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mais... Alors, donc, lui enseignant, on pense un petit peu à Indiana Jones, qui est lui-même enseignant.
Absolument, mais souvent, on me dit d'ailleurs que mes romans, il y a de l'Indiana Jones dedans, et je prends ça comme un très bon compliment.
Mais on vous fait une autre remarque, c'est qu'on vous compare à Dan Brown.
Oui, alors, et en plus de ça, pour le dernier livre, La prophétie du diamant, effectivement, il y a même un bandeau qui avait été ajouté, parce que Philippe Labro, qui avait chroniqué mon premier livre dans son émission, avait eu la gentillesse de dire que j'étais le Dan Brown français. Alors,
c'est quand même pas n'importe qui a fait cette critique.
Non, absolument. Et du coup, pour la petite histoire quand même, quand on a décidé avec mon éditeur de mettre ce bandeau sur le livre, par correction élémentaire, j'ai envoyé un message à Philippe Labro, un petit SMS, pour lui demander l'autorisation de le faire, qu'on avait déjeuné ensemble avant, etc. etc. Bref, et en fait, c'est son épouse qui m'a répondu en disant « Philippe est à l'hôpital et il ne peut pas répondre, je réponds à sa place, mais il vous donne l'autorisation avec joie, ça, il aurait été très heureux de le faire en direct, blablabla. » Je lui ai remercié mille fois. Et quelques jours plus tard, on apprenait qu'il était décédé.
Voilà. On lui rend en quelque sorte hommage avec ce bandeau.
Voilà, exactement.
Il y a toujours des périodes, des personnages, enfin, ou des références historiques. Est-ce lié justement au fait que votre mère a écrit des ouvrages historiques ?
Oui, sans doute. C'est un de mes amis qui m'avait dit ça un jour, parce que mon père, lui, était producteur de cinéma. Il
Oui.
avait produit tous les premiers films de
De
Louis Malle.
Louis-Malle,
Ouais,
donc
voilà.
le monde du silence, probablement.
Non, il avait produit Ascenseur pour
Ah.
l'échafaud, Zazie dans le métro, Les Amants, enfin tous ces
Zazie
films-là.
dans le métro qui repasse actuellement sur les chaînes OCS,
Ah bah
d'ailleurs.
écoutez, voilà, très 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 bon film. Et c'est un de mes amis qui m'a dit, mais en fait, tes livres, c'est la synthèse de tes deux parents, l'imaginaire de ton père et l'histoire et le côté historien de ta mère. J'ai trouvé ça, c'est juste, voilà.
Oui, c'est vrai. Bah, ça sera pas le final musical, mais on aurait pu mettre la musique de Miles Davis de
Ah bah
Ascenseur pour les chances.
c'est d'ailleurs mon père qui avait suggéré à Louis Malle, parce que mon père était un fan de jazz, et il m'avait dit, tu sais, pour l'ascenseur pour l'échafaud, il faut que tu demandes à Miles Davis, et
Ah
c'est ce
oui,
qui
mais
s'est
quand on voit
passé.
ce film,
Ouais.
on s'intéresse presque plus à la musique
Ouais, absolument.
qu'à l'image, en quelque sorte. Donc nous avons parlé de ces personnages. Dans le précédent roman, nous allions au Tibet.
Oui, c'est vrai, on allait au Tibet, entre autres, et en Argentine et dans plein d'autres endroits, mais c'est vrai que le Tibet prenait une place importante. Et le Tibet et l'Inde aussi, dans une certaine façon, et c'était. Je fais beaucoup voyager mes personnages.
Mais
Voilà.
le Tibet, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de romans où il y a une part un petit peu d'ésotérisme qui s'intéresse au Tibet. Bon, il y a eu Tintin au Tibet, mais
Oui.
qui est quand même un roman, enfin une bande dessinée à part dans l'œuvre d'Hergé
Ouais,
d'ailleurs,
ouais.
parce que lui-même avait dit, je crois qu'il avait fait une psychanalyse à l'époque, et je crois que le blanc de la neige a une
Ah,
grande
bah ça, je savais
importance.
pas. Ok.
Mais il y a toujours quelque chose avec le Tibet.
Oui, il y a un côté mystique, un côté spirituel et parfois ésotérique. Et en fait, le départ du deuxième livre, donc Aranea, le neuvième livre, c'était une expédition qui a réellement existé, qui était une expédition qui s'appelait l'expédition Ernst Schaeffer, qui a été montée par les SS, en
SS
fait,
par Himmler.
voilà, par Himmler, juste avant la guerre. Et donc, le point de départ, effectivement, cette expédition au Tibet, qui a été assez entouré de mystères. Voilà.
Alors, encore une fois, la télévision, récemment, j'ai pu voir sur la chaîne Toute l'Histoire un reportage sur
Cette expédition.
sur cette
Ouais.
expédition. Ils étaient persuadés de retrouver les origines des Aryens
C'est ça.
là-bas.
Ils pensaient effectivement que sur le plateau tibétain, on pouvait retrouver les origines aryennes de la race. Bon.
Et ce qui est amusant, c'est que ni Himmler ni Hitler n'avaient vraiment des visages de blonds aux yeux
Non,
bleus comme on imagine
on
les
peut pas dire
Aryens.
ça, non.
C'est comme... Donc il y a ces deux personnages que nous avons évoqués, et dans tout roman de ce genre qui se respecte, il y a des méchants. Et il y a une méchante en l'occurrence.
Alors, dans tous les romans, effectivement, il y a une méchante et des méchants. Là, dans le précédent livre, effectivement, il y a une méchante, Sylvia, qui j'avoue, est un personnage que j'ai beaucoup aimé, en fait.
Mais souvent, on s'intéresse plus aux méchants qu'aux gentils.
Eh ben, écoutez, là, en tout cas, elle m'a beaucoup séduit, en tout cas. Et Sylvia, effectivement, va à la fois donner du fil à retordre à nos amis et en même temps les embarquer dans une histoire. Voilà, les forcer à s'embarquer dans une histoire. Voilà.
Mais c'est vrai que les méchants, bon, très souvent, on s'y intéresse presque plus qu'aux
Ouais,
gentils.
c'est vrai, c'est vrai.
Il y a donc, elle aurait pu être même, vous pourriez même faire un roman, pourquoi pas, où elle serait la vedette, mais enfin un roman peut-être qui se passe avant.
Ouais, voilà, exactement.
Dans la prophétie du diamant, alors là, on arrive en plein dans l'histoire, c'est 1492,
Oui.
c'est l'expulsion des Juifs,
Voilà,
par Isabelle la catholique.
c'est l'Inquisition espagnole, exactement, avec Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique qui, en gros, donnent 6 mois aux Juifs pour soit se convertir, soit partir. Tout part en fait de 1482 où ils créent l'Inquisition espagnole. Alors, l'Inquisition espagnole, faut pas confondre avec ce qu'on appelle l'Inquisition médiévale. Alors, pour faire vraiment très très court, l'Inquisition médiévale, c'est le nom de la rose d'Umberto Eco, voilà. Et l'Inquisition espagnole, c'est la traque des Juifs en Espagne qui étaient convertis au catholicisme, mais
Ce
dont
qu'on
on
appelle les
soupçonnait,
marrons, je crois.
exactement, et dont on soupçonnait qu'ils pratiquaient leur religion en douce, en
Ils
fait,
étaient
en
donc
cachette.
relapses.
Voilà. Et donc, du coup, on traquait, on observait, et s'ils étaient convertis et qu'ils pratiquaient encore leur religion juive, eh bien, à ce moment-là, ils étaient questionnés au sens torture hein, du terme, et puis souvent mis à mort. Voilà.
Il était plus grave d'être relapse que d'être resté pratiquant juif,
Ah,
en
mais
quelque sorte.
complètement. Parce que, oui, complètement. C'est-à-dire que, et en plus de ça, ce que je décris dans le livre d'ailleurs, c'est que l'Inquisition espagnole ne connaissait pas la prescription. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que si jamais un juif converti est mort, bon, très bien, il est enterré, Et puis, 3 mois plus tard, l'Inquisition s'aperçoit qu'en fait, il pratiquait en cachette sa religion. Et bien, l'Inquisition allait déterrer le corps, le traînait en place publique dans toutes les rues de la ville et le brûlait sur la place publique. Donc, c'était complètement délirant, en fait.
Alors, il y a eu un pape à qui c'est arrivé également. Je n'ai plus son nom en tête, mais son successeur, qui le détestait, l'avait fait déterrer pour le juger.
Oui, exact. Alors, je ne sais plus
lequel. Je ne sais plus lequel non plus, mais c'était quand même des moyens, dirons-nous, assez particuliers. Et de cette acquisition, c'est là que va naître la richesse d'Anvers, en quelque sorte.
Oui, en fait, la façon dont ça s'est passé pour moi, en tout cas, c'est que donc moi, j'ai travaillé dans le diamant pendant 10 ans et j'allais à Anvers toutes les 3 semaines pendant 10 ans à peu près. J'exagère, mais pas loin. Et donc, je me suis lié d'amitié avec certains diamantaires. Et il y en a un jour qui m'a dit, mais tu sais, Anvers est devenu Anvers grâce à l'Inquisition espagnole, parce qu'en fait, les Juifs ont été chassés d'Espagne, ils sont remontés vers le nord qui était plus tolérant, et ils se sont installés à Anvers et Amsterdam pour les diamants, et puis etc., etc. Bon, mais ça, cette phrase, il me l'a dite il y a, je sais pas, 10 ou 15 ans, quoi. Ben, les méandres du cerveau font que tout d'un coup, cette phrase m'est revenue à l'esprit, et c'est comme ça qu'effectivement, je me suis intéressé à ça, puis en me disant, mais finalement, c'est quoi l'Inquisition espagnole, parce que je connaissais pas trop. Comme beaucoup de gens, je confondais avec l'Inquisition médiévale, puis je me suis documenté, et voilà, c'est là que c'est parti.
Je présume qu'il y a encore un certain nombre qui ont des noms hispaniques.
Oui, sans doute, oui. Ouais, ouais. Alors après, il y a 500 ans, plus de 500 ans, donc ça a eu le temps de se mélanger, mais oui. Ouais.
Bien sûr. Et lorsque l'on parle, Inquisition, on parle aussi, bien sûr, on évoque le Vatican,
ouais.
Et il y a beaucoup de secrets, c'est pareil, on pense qu'il y a un monde très secret au Vatican, et ça aussi, ça inspire les romanciers.
Ah, ça, c'est une source inépuisable d'inspiration entre les manigances du Vatican, les archives, et bref. Donc ça, c'est vrai que c'est une source d'inspiration assez forte. Et là, j'ai voulu effectivement faire intervenir le Vatican dans cette histoire, puisque nos amis sont à la recherche d'un diamant taillé en 1492, justement.
Qui était ramené par...
rapporté par des chevaliers, effectivement. Donc, ce diamant serait la clé pour trouver un endroit où est caché un manuscrit qui déstabilise les fondations de l'Église catholique. Et donc, évidemment, mes deux enquêteurs vont être face à deux adversaires de taille. Une secte d'ultra-fanatiques catholiques qui a besoin de ce manuscrit pour justifier son Armageddon, pour faire court, et de l'autre côté, le Vatican qui veut ce manuscrit pour le détruire.
Mais je pensais aussi à un ouvrage que j'avais reçu son auteur il y a très longtemps, qui avait fait un roman consacré à la machine d'Hernetti, qui serait une machine au Vatican.
Oui.
Grâce à laquelle on pourrait prendre des photos du passé.
Absolument, et c'est... Je vois très bien
son prénom était Roland, si mes souvenirs sont bons, mais je n'ai plus son nom en tête, enfin, c'est un détail, mais c'est vrai que cette machine, on affirme qu'elle existe.
Bah, ça, je ne sais pas.
Mais le Vatican ne confirme pas, mais ne dément pas.
Voilà, c'est ça.
Nous allons laisser passer un message, si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie d'Alexandre Murat et nous parlons de la prophétie du diamant paru au Fleuve Noir. Le Fleuve Noir, de toute façon, il y a les romans policiers, il y a aussi les romans de science-fiction, et maintenant il y a ce genre de romans qui était peut-être moins mis en avant à l'époque des romans policiers.
Oui, les romans, alors moi, on appelle ça des thrillers ésotériques, des romans d'aventure, etc. Bon, bref, il y a plein de dénominations différentes. Mais effectivement, on est quelques-uns, pas beaucoup, à faire ce genre-là. Et c'est vraiment passionnant. Moi, ce qui m'amuse et ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent être pris dans l'histoire et apprendre beaucoup. Quand les lecteurs me voient dans les salons et qui me disent « J'ai adoré votre roman, je l'ai lu en 3-4 jours parce que je ne pouvais pas le lâcher et j'ai appris plein de choses. » Et ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est la raison pour laquelle, en fait, moi, à chaque fois, à la fin de mes romans, il y a un chapitre qui dit « Voilà tout ce qui est
tout
vrai dans
les... » Tout à fait, on va en parler justement de certains de ces éléments, mais cette mode, entre guillemets, si on peut dire, de romans ésotériques, est-ce que c'est pas un besoin par rapport au quotidien de s'évader différemment que pour un roman plus classique.
Alors, je pense que de toute façon, en ce moment, effectivement, on a pas mal besoin d'évasion. L'actualité nous pousse vers l'évasion de façon assez majeure. Et oui, le roman ésotérique, bah, c'est ça, c'est que vous voyagez à la fois dans le temps et dans la géographie. Alors que souvent dans le polar, on reste dans une unité géographique une unité temporelle, pardon, assez forte. Là, on rajoute une dimension qui est la dimension temporelle.
Dans les faits historiques de votre ouvrage, j'ai découvert totalement ce qui s'appelle la Bible de Colbrine.
Ah oui, alors la Bible de Colbrine, ça c'est un truc passionnant. C'est un texte qui est composé de 11 livres, 6 qui auraient été écrits au temps des Égyptiens et 5 au temps des Celtes. Et... ce qui pose problème, en l'occurrence, dans mon livre, c'est que dans cette Bible de Colbrine, et c'est la réalité, il y a un certain nombre de paragraphes ou de passages qui décrivent Jésus par ses contemporains. Ses contemporains auraient écrit ça. Et donc, notamment, le fait que Jésus ait plusieurs frères, donc, ce qui remet passablement en cause l'Immaculée Conception. Et c'est ce qui dérange le Vatican. Ce texte, la Bible de Colbrine, est tout à fait achetable sur Amazon ou sur n'importe quelle librairie qui peut le disposer. C'est un texte assez abrupt à lire, notamment sur les 6 premiers livres, qui parle d'un grand destructeur qui va revenir. Enfin, il y a un côté assez apocalyptique. Les 5 derniers livres sont un peu plus lisibles, on va dire.
Vous parlez vous avez employé le terme apocalyptique, et l'apocalypse, c'est pareil. Alors là, ce texte de Saint Jean, ça a permis également d'écrire pas mal de romans.
Oui, alors j'ai voulu faire le lien, parce que en fait, il y a pas mal de chapitres où, à la fin, je reprends des versets de l'Apocalypse de Saint Jean qui collent vraiment parfaitement, et parfois de façon assez déstabilisante, j'avoue, moi-même, sur ce que j'ai écrit. Donc,
Revenons au temps du Christ, la secte des Esséniens, oui, qui a une grande importance dans votre ouvrage. Bon, moi, ayant été au catéchisme enfant, je n'ai pas entendu parler des Esséniens à l'époque.
Non, parce qu'on en parle assez peu, et pourtant, c'était une des sectes. C'était une secte de gens, alors on dit secte, c'est pas au sens moderne du terme, hein. C'est une communauté, en fait. Ils étaient extrêmement rigoristes, en fait. Ils pratiquaient le jeûne, la cèse, etc. Bon, bref. Donc, et on dit même que Jésus était un Essénien, d'ailleurs, précisément. Et également, et j'en parle un moment dans le livre, les Esséniens, ce seraient en partie ceux qui ont écrit les rouleaux
de la mer morte.
La mer morte, exactement.
C'est ce que j'ai découvert dans votre
ouvrage. Parce qu'on a effectivement découvert les rouleaux de la mer morte à Qumran, et Qumran était l'endroit des Esséniens, et ça correspond assez bien à... C'était des érudits, etc.
Existe-t-elle encore aujourd'hui sous une forme ou une autre ?
Alors, oui, à l'occurrence, en tout cas, il y a des sectes, pour de vrai, qui aujourd'hui s'appellent l'Église essénienne, ou enfin qui ont utilisé le mot essénien dans leur titre, et qui se prévalent de cette secte.
Dans votre ouvrage, alors, il y a un mystère historique également, c'est celui sur la ligne Saint-Michel qui existe. Alors c'est pareil, à la fin de votre ouvrage, vous dites que cette ligne existe vraiment. Il faudrait expliquer ce qu'est cette fameuse ligne Saint-Michel.
La ligne Saint-Michel, c'est une ligne imaginaire, mais qui relie 7 monastères dédiés à Saint-Michel, de l'Irlande jusqu'à Haïfa en Israël. Et ces 7 monastères sont alignés sur une ligne quasiment parfaitement droite. Donc c'est assez extraordinaire de voir cette ligne droite de 7 monastères et qui sont dédiés à Saint-Michel. En France, il y a le Mont-Saint-Michel, évidemment. Et puis, voilà. Mais c'est assez, assez étonnant.
Et il doit y avoir des théologiens peut-être qui se sont penchés sur ce mystère, ou d'autres, ou même des complotistes, pourquoi pas, puisqu'ils sont partout maintenant.
Voilà, c'est ça. Donc non, ça a été effectivement assez étudié, mais ça veut dire que c'est une chose extrêmement troublante de voir cette ligne, ça c'est vrai.
Dans votre ouvrage, il y a cette secte, vraiment, on va pas dévoiler, bien évidemment, mais quand on voit l'emprise des sectes sur leurs adeptes, est-ce que vous avez un petit peu, pour faire ce livre, étudié les façons où certains gourous peuvent amener les gens même à se suicider ou
Absolument.
Autre.
Donc, de manière générale, je me documente énormément pour écrire mes livres. Et d'ailleurs, à la fin, vous pourrez retrouver toute la bibliographie utilisée pour le livre. Et je me suis évidemment beaucoup, beaucoup renseigné sur les sectes. Alors, ce n'est pas la littérature ni les documentaires télé qui manquent là-dessus. Et c'est le phénomène d'emprise est absolument fascinant et terrifiant. Et c'est tous milieux sociaux confondus, c'est toute géographie confondue d'ailleurs. Donc, et ça peut amener évidemment à des gestes terribles ou avec des suicides collectifs en masse. Enfin, bon,
J'ai lu récemment un ouvrage consacré à cette fameuse secte où en Suisse il y avait eu tout un tas de suicides. Ouais. En France, et d'ailleurs des Français avaient été à l'origine d'ailleurs de cette secte.
Ouais, absolument.
Malheureusement. Pourrais-je dire. Nous avons donc parlé tout à l'heure un peu de vos lecteurs, qu'ils trouvent vraiment quelque chose d'agréable. Je présume qu'ils vous demandent quand va avoir lieu la suite.
La suite est en cours, puisque je suis en train de l'écrire, et ça va sortir en janvier 2027.
Voilà. Ah, voilà. Il va falloir encore patienter.
Il va falloir patienter un petit peu, un peu moins d'un an. Mais effectivement, là, Alex et Marie vont retrouver de nouvelles aventures à leur mesure.
Toujours dans des lieux très très diversifiés, je présume.
Oui, je l'ai fait toujours beaucoup voyager parce que ça fait partie du genre, on va dire. Et puis c'est là aussi qu'on découvre plein de choses passionnantes.
J'ai une question que je pose de temps à autre, pas toujours, mais cette émission, il y a très longtemps, s'appelait Le bonheur d'écrire. Avez-vous une définition du bonheur d'écrire ?
Oh là, ça c'est dur comme question. Justement, pour moi, le bonheur d'écrire, on parlait d'évasion tout à l'heure. Pour moi, le bonheur d'écrire, c'est l'évasion. C'est ce qui, dans mon quotidien, m'évade le plus de très très loin. Ça fait maintenant totalement partie de mon équilibre. Je ne pourrais pas m'en passer. Et c'est un vrai bonheur, effectivement, de pouvoir se plonger dans la vie des personnages, de les faire grandir, évoluer. Et tout d'un coup, plus rien n'existe. Pendant 2-3 heures pendant lesquelles j'écris, je suis complètement ailleurs. Et ça, c'est fantastique.
Et inconsciemment ou consciemment, y a-t-il des auteurs qui vous ont influencé pour vous mettre à l'écriture vous-même ?
Alors, inconsciemment ou consciemment, bien sûr. Mais d'ailleurs, moi, il y a eu un... Enfin, quand j'ai lu le premier Dan Brown, qui était le Da Vinci Code, donc le premier que j'ai lu, en tout cas, ça a été pour moi un épisode marquant, ça c'est certain, ça m'a donné envie. Et puis après, il y a une autre personne qui m'a donné envie d'écrire avec son livre, c'est Le dernier des nôtres d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, où ça m'a beaucoup marqué.
On imaginerait volontiers vos livres adaptés au cinéma, d'ailleurs.
Eh bien, c'est en cours, figurez-vous, puisqu'on est en train
cinéma de... Cinéma ou télévision ?
Ça sera télévision.
Télévision.
Enfin, sur des plateformes, quoi, en gros. Et on est en train de travailler sur l'adaptation du premier, vous voyez, donc la légende de l'empereur.
Mais voilà. Est-ce que vous imaginez des acteurs dans les rôles ? Parce que lorsqu'on écrit, je présume, on visualise ces personnages.
Oui, on visualise, mais là, j'ai pas trop d'idées encore. J'ai pas trop de
Il y a certains acteurs à la mode en ce moment, comme Pierre Ninet, qu'on voit partout, par exemple.
Pierre Ninet, ça serait un super choix, ça c'est clair, mais bon.
Le verrait-on en professeur avec toutes ses aventures ? Ça, c'est autre chose.
Exactement.
Nous allons pratiquement arriver à la fin de cette émission. Alors, je rappelle déjà quand même le titre, c'est La prophétie du diamant. Comme les deux précédents, c'est paru au Fleuve Noir. Mmh. Et nous allons terminer par une chanson qui évoque les diamants. Alors, il y en a quand même pas mal. J'ai trouvé pas mal de chansons où on parle de diamants. Il y a La roqueuse de diamants.
Bien sûr, exact. Oui,
j'aurais pu la choisir, celle-là. Il y a Marilyn Monroe, Diamond.
Un girl's best friend, bien sûr.
Mais là, on a choisi les Beatles.
C'est super, c'est une très bonne idée.
Vous voyez de quelle chanson je parle.
Bien sûr.
Cette chanson, en fin de compte, c'était à la gloire de la drogue, malheureusement.
Lucy in the Sky with Diamond, c'est LSD. Oui, donc, effectivement.
Mais il ne faut pas oublier que c'est sur cette chanson qu'a été créée que Yves Coppens a découvert l'Australopithèque qu'il a appelé Lucy.
Voilà.
Lucy in the Sky. Bien, je vous remercie encore d'être venu aujourd'hui, Alexandre Murat. Et rendez-vous en 2027.
Avec joie. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds.
eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis, the fear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties.